culture.
Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Sud, nous voici de nouveau réunis pour une émission en culture. Alors, confinement oblige, hein, nous sommes là au studio avec Lou. Bonjour Lou.
Bonjour Jean-Marie.
Voilà, et sur un petit écran d'un petit ordinateur, nous avons Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à toutes et à tous.
Coralie, hein, qui est là.
Bonjour tout le monde.
Et une nouvelle venue que nous accueillons bien volontiers, Jeanne Grandjean, qui est là. Bonjour Jeanne.
Bonjour à tous.
Donc voilà, l'émission culturelle de Radio Sud, appliquée avec les bibliothèques de Gérouville, de Jamoigne et de Florentville. Alors je vous propose, puisqu'on parle de la bibliothèque de Jamoigne, la spécialiste des jeux est là, toute pimpante, elle est au starting block, et elle va nous présenter un jeu. Nous t'écoutons, Coralie.
Oui! Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter Color Addict. C'est un petit jeu de cartes, un petit jeu d'ambiance pour se faire un apéro entre amis ou une petite journée jeu en famille. Alors, Color Addict, il y a 110 cartes. On peut y jouer à partir de 7 ans, donc c'est vraiment parfait. Si jamais vous avez les petits-enfants en visite ou quelque chose comme ça, c'est le top. On peut jouer de 2 jusqu'à 6 joueurs et une partie va durer environ 15 minutes. Alors le but du jeu c'est très simple, c'est un jeu d'association. Donc sur chaque carte on a un nom de couleur écrit dans une certaine couleur et le but est d'associer soit les cartes qui ont la même couleur, soit les cartes qui portent le nom de la bonne couleur. Donc par exemple, ici j'ai une carte qui s'appelle orange et qui est écrite en gris. Je peux donc mettre toutes mes cartes grises, même si ce n'est pas le mot orange, toutes mes cartes de couleur orange, peu importe le mot écrit, et tous mes mots orange, peu importe la couleur dans laquelle elles sont écrites. Donc c'est un petit jeu super rapide, super facile, et qui permet aussi de refixer un petit peu son attention sur les couleurs, de faire travailler un petit peu sa dextérité, sa mémoire et sa vivacité. Voilà, donc il est dans une... Oui, t'avais une question, Jean-Marie.
Oui, c'est en fait c'est pas une histoire qui associe le cerveau gauche et le cerveau droit. Il y a pas une histoire comme ça. Le
si,
texte qui est lu et l'image, donc j'imagine que ça aide à pas connecter les deux parties, quoi.
Si, si, tout à fait. Et donc ça permet de vraiment garder un cerveau en très très bonne santé.
Ça c'est chouette. Il faudrait ça, moi.
Oui.
On va jouer à ça.
Hein. Absolument.
Bah écoute, si tu veux, Jean-Marie, je te le prêterai avec plaisir.
Voilà. Si des auditeurs et des auditrices ont aussi besoin de reconnecter les deux moitiés de leur cerveau, eh bien voilà, qu'ils se rendent à Jamoigne. Tu nous rappelles le nom du jeu ?
Donc ça s'appelle Color Addict.
Ah oui, voilà.
Donc voilà, un petit jeu avec une petite boîte qui est vraiment super sympa, qui est carrée, qui fait à peu près 10 cm sur 10 cm, donc assez petite, facile à transporter, et qui est assez drôle puisque le jeu est déconseillé aux cardiaques, aux dalmatiens, à ma mère, aux éléphants roses, aux boulets rouges, aux chats noirs, aux blancs becs, aux petits hommes verts, aux loups blancs, aux bleus, aux gros rouges qui tâchent et aux mecs en short et sandales.
C'est très alors, drôle.
Faites bien attention à comment vous êtes habillé le jour où vous venez le chercher, parce que les shorts et sandales, c'est pas possible.
C'est très drôle.
Et donc, c'est un jeu pour le monde d'après, où on pourra se réunir entre amis, faire des apéros, voyager, le prendre avec nous dans les bagages. Donc, ça donne des perspectives.
C'est ça, j'avais envie de vous apporter une petite note d'espoir.
Ben oui,
c'est... Voilà. Et la boîte est jaune, donc aujourd'hui, la couleur de l'espoir, ce sera jaune.
Voilà, ça change un peu. Ben écoute, merci Coralie, ça a l'air chouette ce petit jeu là.
Ouais, et franchement, il est super sympa, donc faut pas hésiter, il vaut le coup. Il vaut très très fort le coup.
Magnifique.
Et rappelle-nous, Coralie, quand on emprunte des jeux à la ludothèque, c'est pour une durée de combien de temps ?
Alors, quand on emprunte un jeu, c'est pour 4 semaines. Donc, il y a quand même le temps de bien, bien jouer. Et nous, à Jamoigne, on demande 1 € par jeu pour essayer de rester démocratique.
Salut.
Oui, c'est pas cher. Hein. Parce que bon, avant d'acheter un jeu, c'est vraiment super de pouvoir l'essayer. Et donc, parce que les jeux, c'est quand même un certain coût. Donc, c'est un investissement relativement modéré pour finir.
C'est ça.
Et de pouvoir un peu tout essayer.
Il y en a qui sont pas très très chers, comme Color Addict, ils coûtent 10 €, mais il y en a d'autres qu'on vous présentera peut-être un jour, comme Mysterium, où là, la boîte, c'est 40 €, donc il faut déjà avoir le budget.
Oui, en effet. Bien, bien.
Effectivement.
Alors, ben voilà, nous avons Jeanne qui est venue rejoindre l'équipe de En Culture. Et peut-être qu'Isabelle a envie de dire un mot aussi. Hein. Je pense que vous avez un peu travaillé ensemble sur le projet. Je vous laisse la parole. Hein. Isabelle, Jeanne, comme vous voulez.
Oui, oui, Jeanne n'est pas là par hasard. Donc, Jeanne Grandjean, qui représente aussi Benoît, son compagnon, parce qu'ils travaillent à deux. Jeanne est là parce que on a ensemble, avec la bibliothèque de Florenville, rentré un appel à projet qui a été retenu. Le fonds Annick Siméon, soutenu par la Fondation Roi Baudouin. Et ce fonds Annick Siméon, il a une vocation particulière, c'est améliorer la vie des personnes âgées. Et donc, ça passe aussi par la vie de toute personne, puisque si on travaille l'intergénérationnel, qu'on fait plaisir aux jeunes enfants, aux adultes, on fera plaisir à leurs parents, aux grands-parents. Et notamment en cette période de confinement où on a du mal à se voir, à se rencontrer, on s'est dit que proposer des rencontres, justement, ça pourrait être bien, et de pouvoir les diffuser en radio, puisque la radio ne nécessite pas d'être connectée avec Internet. Parce qu'évidemment, là, ça fait un an que tout le monde passe par Internet, et tout le monde n'a pas Internet. Donc, on pense aux résidents dans les homes, on pense aux personnes plus âgées, plus isolées, qui ont peut-être reçu une tablette, mais qui savent pas trop comment s'en servir, et qui sont bien contents de nous écouter sur Radio Sud. Et donc, Jeanne et sont partis à la rencontre de personnes qui avaient des choses à dire. Mais donc là, je laisse la parole à Jeanne.
Oui, merci Isabelle. Merci à Radio Sud. Voilà, et c'est vrai que ce projet, il est né vraiment sous l'impulsion de la bibliothèque de Florenville, et ce fonds Siméon a permis de le réaliser. Notre idée avec mon compagnon, c'était d'aller rencontrer donc ces personnes âgées à domicile, principalement, pour pouvoir déjà simplement les visiter, leur donner un petit coup de pouce, enfin montrer que quelque part ils n'étaient pas aussi seuls qu'ils ne le pensaient, et pouvoir venir les écouter, voir s'ils avaient des choses à nous raconter. On a posé nos micros, on a posé nos caméras, parce que donc c'est un projet qui à la fois porte sur un projet d'enregistrement radio, mais aussi dans cette émission, mais aussi de capsules audiovisuelles, voilà, qui se feront progressivement.
Et on pourra les voir
plus tard. Le centre culturel va nous rejoindre, puisque dès qu'on le pourra, nous irons dans les deux maisons de repos à Florenville et à Villers-de-Ventorval, rencontrer les résidents et écouter leurs témoignages. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire, hein, vous connaissez quelqu'un, ou si vous-même, vous avez des choses à raconter, à dire, et que vous souhaitez que Jeanne et Benoît viennent vous rendre visite, n'hésitez pas à contacter la bibliothèque de Florenville au 061 320 340, ou par mail, ou via Radio Sud, et on sera un plaisir de relayer et de voir comment est-ce qu'on peut organiser une rencontre, même en ces temps difficiles.
Oui, c'est un beau projet, ça. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les maisons de repos. Hein. Alors, il y a des musiciens là, à Villers-de-Ventorval, il y a un accordéoniste, c'est un ancien professionnel, un monsieur vraiment extraordinaire. Et on s'était déjà dit que ce serait chouette de faire une émission de radio, une espèce de cabaret, et faire une captation tu étais venu jouer à une pièce là, à Villers-de-Ventorval il y a quelques années. Du théâtre, oui. Action, là, hein. c'était vraiment super. Donc, ce serait chouette d'avoir des captations et de rendre ça accessible à tout le monde. Hein. Et notamment que des gens qui ne savent pas se déplacer puissent suivre aussi en direct. Eh bien, on va écouter ça, Jeanne, d'accord?
Oui. Allez. Alors, on a rencontré, en fait, Édouard Izette, qui va nous parler d'un peintre bien connu de la région qui s'appelle Abraham Gilson.
Oui, il y a une rue à Abbé-Laneuve, hein. Abraham Gilson, il y en a peut-être dans d'autres villes de la province, j'avoue que ça je l'ignore. Et Édouard Izette, il est bien connu à Florenville, puisqu'il a été longtemps professeur d'histoire. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été élèves de Monsieur Izette.
D'accord. Eh bien, on va écouter ça.
Nous Nous écoutons Édouard Risette, habitant de Florentville, retraité de 35 ans d'enseignement. Édouard a géré en tant qu'administrateur général pendant 15 ans le cercle archéologique et historique de Florentville, avec lequel il a organisé 5 expositions et plusieurs voyages. Il a contribué à l'histoire locale et a décidé aujourd'hui de nous présenter des personnages ayant marqué la commune.
Abraham Gilson, c'est un garçon qui est né à Abbé-la-Neuve en 1741 et qui est décédé à Florentville en 1809. C'est en cette qualité que je me suis intéressé à lui. Mais je le dois surtout à un personnage que j'apprécie beaucoup. C'est Monsieur Schröder, Marcel Schröder, un luxembourgeois de la ville de Luxembourg, qui était venu me demander à Florentville si je connaissais Abraham Gilson. Je lui avais dit non. Aussi, ça m'a intéressé d'aller à la recherche de ce personnage. Et j'ai découvert donc que Abraham Gilson était entré à l'abbaye d'Orval à l'âge environ de 30 ans, qu'il avait peint énormément. Il était un artiste, un self-made man. Il n'a pas beaucoup eu de cours de dessin dans sa vie, mais cependant, il est quand même allé une toute petite année à la Kunstakademie de Düsseldorf, en Allemagne, tout près d'une abbaye qui était l'abbaye sœur, je veux dire, de l'abbaye d'Orval. Et là, il a obtenu un premier prix de composition qui est Adam et Ève se lamentant sur la mort d'Abel. Et cette œuvre très... disons importante, se trouve au musée Gaumet à Virton. Alors, frère Abraham, comme on l'appelle, quand l'abbaye a été détruite, il s'est réfugié dans leur refuge à Luxembourg. Et là, il a peint énormément, d'abord à l'abbaye de Neumünster, dans le Grund, et puis pour un ami, il a peint les 4 murs d'une maison. Et ces peintures-là existent toujours. Elles se trouvent à la rue du Nord, à Luxembourg. Et là maintenant, vous ne pouvez peut-être pas le croire, eh bien c'est une pizzeria. Mais si vous y allez, il faudrait réserver, vous demander pour réserver la salle des peintures d'Abraham Gilson. Voilà, si vous souhaitez y aller, ben je vous invite à le faire. Alors après Luxembourg, eh bien... les moines d'Orval ont dû s'enfuir au prieuré de Conques, près d'Herbeumont. Puis ils ont été obligés de se séculariser, ils ont perdu leur habit de moine. Et frère Abraham est arrivé à Florentville où il a acheté une maison. Et il a continué à peindre, il gagnait sa vie par ses peintures, qu'il plaçait principalement dans les églises gaumaises. C'était des commandes des curés sans doute. Et puis, pour arrondir ses fins de mois, eh bien, il recevait des jeunes élèves à qui il apprenait la peinture. Et j'en arrive justement à un de ses élèves, que je vais vous présenter après, mais je vais terminer en vous disant que Abraham Gilson est mort à Florentville en 1809, et personnellement au CAF en 1999, nous avons commémoré le 190e anniversaire de sa mort et nous avons placé une plaque commémorative sur la façade de la mairie de Florentville. Et puis, un peu plus tard, en 2009, on a fêté le 200e anniversaire de sa mort et le musée Gaumet a fait une très belle exposition d'ailleurs à propos d'Abraham. Et puis en plus, au cercle historique, nous avons fait placer dans l'église à Florentville une copie de sa pierre tombale qui se trouvait dans le cimetière de Florentville. Mais le doyen de Florentville a rendu la pierre tombale à l'abbaye d'Orval et maintenant cette pierre tombale se trouve, elle est incrustée dans la grande croix du cimetière conventuel de l'abbaye d'Orval.
Ben Coralie, c'était très chouette le jeu dont tu as parlé tout à l'heure. Tu n'en aurais pas un autre sous la main, là, par exemple ?
J'en ai effectivement un deuxième, mais j'espère que tu es majeur et vacciné parce que c'est un jeu un peu coquin.
Je ne suis pas encore vacciné, non.
Terrible, terrible. Bon, écoute, je vais te demander de quitter la pièce et je vais parler aux filles, hein, parce que comme ça, on va rester entre adultes.
Voilà. Donc si des enfants nous écoutent, vous bouchez vos oreilles, les enfants, d'accord ? Voilà, Coralie, on t'écoute.
Alors, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle « Le jus du cul ».
Ah oui, ça commence bien.
Ah oui.
Il porte très bien son nom. Alors, Q s'écrit quand même K-U, je tiens à le préciser, parce que on est adulte, mais on n'est pas sale.
Bien.
Alors, c'est un jeu qui est conseillé à partir de 16 ans minimum, parce qu'il y a des questions, il y a des petites cartes qui sont un petit peu plus, comment je vais dire ?
Olé, olé.
Exactement. Merci Isabelle. Et donc, on le conseille à partir de minimum 16 ans. Moi, je mettrais plutôt la limite à 18.
Ah oui, carrément. Donc,
c'est très olé olé.
C'est très olé olé. Je vous déconseille très fortement d'y jouer avec vos parents, parce qu'à mon avis, il y a des choses que vous ne voulez pas savoir sur vos parents. Alors, c'est un jeu qui contient 480 cartes, qui donc a une durée de vie assez longue. On peut y jouer à partir de 3 personnes et il n'y a pas de limite au niveau du nombre de personnes qui peuvent jouer. Une partie peut durer entre 15 minutes et une heure, voire plus si on a envie de continuer à apprendre des choses sur ses amis ou ses proches. Alors, je vous ai sélectionné quelques petites cartes très soft pour que vous ayez une idée de comment le jeu fonctionne. Donc, on pioche des cartes et le principe, c'est de poser la question qui est sur la carte à son voisin de gauche. Donc, par exemple, là, on va dire que mon voisin de gauche va être Isabelle.
Au hasard.
Et donc, dans les très, 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 très soft, il y a nomme trois personnes qui devraient faire de la chirurgie esthétique.
Alors, facile, Jean-Marie.
Isabelle. Ah non, je ne pouvais pas jouer, désolée.
Le chien du voisin et ben moi. Hein.
Je trouve que t'es pas très sympa avec toi-même, mais bon, voilà. Pour vous, chers auditeurs, chères auditrices qui ne voyez pas Isabelle, sachez qu'elle est une femme de lumière magnifique.
Oh, mais Coralie, merci.
C'est joli ça. Oui, allez, une
je suis
question.
Quelqu'un de gentil. Allez, une autre petite question. Avoue deux mensonges qu'il y a sur ton CV. Puisqu'apparemment, tout le monde ment sur son CV à propos d'au moins une chose.
Mais pas du tout.
Eh bien, d'après Jeu du cul, tout le monde le fait. Et le problème, c'est que quand on ne sait pas répondre à une question, on n'a pas de points.
Ah.
Donc voilà.
Alors,
Non, mais on est obligé de mentir sur son CV, parce que par exemple, dans la connaissance des langues, si on dit qu'on parle très bien une langue, le lecteur se dit, ils exagèrent, et donc c'est ramené à bien. Donc on est obligé de mentir, puisque tout le monde le fait. Si on dit ce qu'on est exactement, en fait, on va être dévalué. Donc si on parle bien une langue, on doit dire qu'on la parle très bien. Il y a une espèce de
traduction. C'est quand même un peu triste. Hein. C'est quand même un peu triste.
Oui. Moi, j'avoue qu'il y a tellement longtemps que j'ai rempli un CV que je ne me souviens plus du mensonge que j'y ai sans doute noté.
C'est quoi un CV, d'ailleurs
Ah, je ne sais plus.
Ah, les joyeux retraités.
Enfin, voilà. Donc, il y a d'autres petites cartes qui sont sympas. Bon, il y en a qui sont vraiment très, très soft, du genre dire merci dans trois langues différentes. Trois choses à ne jamais dire pendant un premier rendez-vous amoureux. Ça, à mon avis, ça va être une source de « Tiens, tu te souviens la fois où tu m'as dit ?» qui peut être assez sympa aussi.
Oui, ça peut être croustillant.
Effectivement. Et puis alors, je vais quand même vous en donner une qui est un petit peu plus osée, qui est vraiment dans les 18. « Cite ou mime trois positions du Kama Sutra ».
Ah oui, ça c'est amusant.
Voilà. Alors,
on a le droit, on a le droit d'inclure du coup un joueur.
Effectivement.
Ou une joueuse.
C'est plus facile. Et donc voilà, c'est pour ça que je disais que peut-être on n'avait pas envie de jouer avec ses parents. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'on ne préfère pas savoir sur son papa et sa maman.
En effet, en effet.
Et peut-être pas avec de très bons amis si on veut qu'il le reste.
Effectivement.
Disons que ça dépend du degré d'amitié.
Voilà.
Si vous avez l'habitude de parler de ce genre de choses entre amis, c'est le jeu idéal. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous allez apprendre des choses terribles. C'est obligatoire.
Voilà, voilà. Voilà.
Et au milieu de ces cartes questions, il y a aussi des petites cartes de défis supplémentaires. Par exemple, la carte Shotgun, où on va piocher 3 cartes supplémentaires et poser au voisin 3 questions, donc enchaîner les 3 cartes. Le voisin en question a 8 secondes pour répondre. S'il répond correctement, il gagne 3 points d'un coup. S'il bloque ne serait-ce que sur une réponse, il a tout perdu.
Ah oui.
Sévère.
Cruel.
Quand même.
C'est cruel.
Mis à part le jeu de mots, Q écrit KU, ça veut dire quelque chose ?
Aucune idée, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'en fait, ils ont vraiment pris le parti de partir sur des jeux de mots pour que, quand on le voit en magasin, il n'y ait pas de soucis au niveau de la boîte, du packaging de la boîte, quoi, pour que ça puisse être
mis... Que ce soit pas classé X.
Exactement, voilà. Donc, la boîte est très, très simple. Elle est juste blanche avec le titre imprimé à chaque fois en 2 lettres, donc J, du cul, et on voit un petit verre pour passer une bonne soirée, un petit piment pour expliquer qu'il est quand même un peu osé, et une paire de jambes avec des talons aiguilles. Mmh. Voilà. Mais c'est mis en jaune, donc le jaune sur le blanc, c'est pas hyper visible, il faut vraiment faire attention pour le voir, ce qui fait que si un enfant tombe dessus, a priori, il n'y a pas énormément de problèmes, quoi. Tant qu'il ouvre pas la boîte, il n'y a pas de problème.
Bien, bien, bien. Ok, ok. Ben oui, ça peut être intéressant, un jeu de fin de soirée avec un petit Orval ou autre chose d'ailleurs. Hein. Bon, ben, moi je vais vous parler de sinistre individu. Hein. C'est un livre que j'ai trouvé à la bibliothèque de Florentville qui s'intitule « L'art de la fausse générosité, la fondation Bill et Melinda Gates ». C'est un livre de Lionel Astruc, ou Astru, je ne sais pas comment on prononce, et c'est publié chez Actes Sud. Donc, vous savez probablement que Bill Gates est le premier sponsor de l'OMS, hein, et que de ce fait-là, il a évidemment le droit d'influer sur les décisions qui sont prises. Alors, ça a été un des hommes les plus riches du monde. Alors, comment est-il devenu riche ? Eh bien, en vendant des choses qui préalablement étaient gratuites. Par exemple, il y avait le premier langage de programmation, hein, qui s'appelle le BASIC. Il a été inventé par des informaticiens passionnés. Alors, Bill Gates, lui, il a changé 2-3 lignes de code, et puis il l'a vendu. Il a inventé un système d'exploitation qui s'appelait le DOS, qui était vraiment quelque chose de très très mauvais, mais il a eu l'intelligence de signer des contrats d'exclusivité avec IBM. Vous savez, PC, Personal Computer, et donc tous les ordinateurs qui étaient vendus ont été vendus avec le DOS. Et de nos jours encore, tous les ordinateurs qui sont vendus avec Windows. Non, non, il n'est pas gratuit. Vous payez entre 50 et 60 euros pour avoir le Windows sur l'ordinateur, ce qui est tout à fait illégal. Hein. On ne peut pas vous obliger d'acheter quelque chose. Mmh. Alors voilà, il était très riche et puis il a fait une fondation. Alors il sponsorise, il fait beaucoup de choses très intéressantes, ça c'est un fait. Mais le problème, c'est que la fondation, ça ne va pas directement dans des œuvres. Hein. Son argent, il l'a mis dans un fonds d'investissement. Alors là, il y a la pétrochimie, il y a vraiment tout un tas de choses qui ne sont pas très reluisantes du tout et qui sont en totale contradiction avec ce qu'il affiche. Alors c'est un fan de technologie et il est absolument contre l'agroécologie, vous voyez, le jardinage biologique, etc. Non, 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 il faut des OGM. Et donc ils sponsorisent comme ça la recherche d'OGM et ils veulent imposer des OGM en Afrique. Ils n'osent plus en Inde parce que tous les fermiers se suicident. Et alors là, il y a des grands mouvements contre le coton OGM. Hein. Et voilà, c'est un livre vraiment intéressant. Ça permet aussi de voir un peu comment il était dans sa jeunesse. Il paraît qu'il était extrêmement intelligent, qu'il prenait un malin plaisir à mettre ses professeurs dans l'embarras. Une espèce de petit pète-cul comme ça. Et un système d'exploitation vraiment extrêmement mauvais. Et puis, une image très polissée, très lisse, très sympathique, alors qu'en réalité, en dessous de ça, il y a des choses beaucoup, beaucoup moins reluisantes. Alors, il est un peu bizarre parce qu'il dit que la surpopulation, c'est le problème majeur de l'humanité. Et en même temps, il veut absolument qu'on fasse des vaccins. Il faudrait, faudrait savoir ce qu'il veut, quoi. Ou bien il trouve qu'il y a trop d'humains. Alors ça, c'est assez intéressant, ce concept de surpopulation. Parce que, bon, c'est pas les Européens qui vont devoir se reproduire moins. Hein. C'est pas non plus les Américains. C'est évidemment dans les pays pauvres. On va leur dire, non, non, vous faites trop d'enfants. Et donc là, il y a vraiment quelque chose au-delà d'une espèce de préoccupation soi-disant humanitaire. Il y a des choses beaucoup, beaucoup moins reluisantes qui sont très bien expliquées dans ce livre. Et ça va faire le lien avec le livre que Lou a lu, dont elle va vous parler tout de suite.
Oui, oui, justement, moi je vais vous parler d'un livre magnifique où Bill Portail, Steve Petitboulot et Marc Montagne de Sucre n'existent pas. Entendez, Mark Zuckerberg, Bill Gates évidemment et Steve Jobs. C'est un livre vraiment très drôle, enfin que j'ai trouvé très drôle. Ça s'appelle « Tout un été sans Facebook ». Et oui, c'est possible. Et c'est un roman de Romain Puertolas qui est paru en 2017 aux éditions Le Dilettante. Alors, alors Romain Puertolas, soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Bon, ça passe ou ça casse. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. J'ai en fait offert le livre à deux copines. Alors, il y en a une, elle a adoré, l'autre, pas du tout. Bon, voilà. Alors, allez quand même à la bibliothèque, l'emprunter, si vous voulez. Et vous verrez bien si vous aimez ce type d'humour. En fait, c'est un polar, mais un critique littéraire l'a décrit comme un poilard, effectivement. C'est l'histoire d'Agatin Crispy. Alors, Agatin travaillait à New York City, hein, au célèbre commissariat, enfin au célèbre département de la police new-yorkaise. Mais bon, pour faute professionnelle, elle se retrouve au commissariat de New York, mais cette fois dans le Colorado. Alors, il s'y passe rien dans ce commissariat. En fait, c'est un bled où il n'y a même pas de connexion Internet et donc pas de Facebook. Alors, le village compte 150 habitants, 198 ronds-points et pas de connexion Internet. Et on s'ennuie au commissariat, on s'ennuie désespérément. Donc, on joue aux fléchettes, on tricote, on a des clubs de sudoku. On a aussi un club de lecture parce que Agatha Crispy, en plus d'être un fin limier, adore la littérature. Et donc, elle a monté un club de lecture très drôle. Au départ, il y a deux participants, elle-même et la femme de ménage mexicaine qui n'a pas du tout le temps de lire. Et puis, subitement, il se passe quelque chose de terrible dans ce village de 150 habitants où jusque-là, la pire infraction constatée avait été le fait qu'un gars a brûlé le seul feu rouge du patelin. Et bien, subitement, la voilà confrontée à un meurtre horrible, puis à un second tout aussi atroce, et en troisième, encore plus terrible. Donc, la voilà, un nouveau départ dans la carrière d'Agatha Crispy. Franchement, moi, j'ai ri aux larmes et ça fait vraiment du bien. Alors, je vais vous lire deux petits extraits. Le premier, c'est pour vous donner une idée de l'humour de Puertolas. Bon, si vous aimez pas, ben alors n'allez pas l'emprunter. Si vous aimez, voilà. Alors, je vous rappelle, hein, donc rien ne se passe au commissariat, sauf Madame Jennings. Madame Jennings est une des habitantes de New York, Colorado, et c'est une vieille dame. Voilà. Madame Jennings apparaissait au commissariat chaque fin de mois pour rapporter la disparition de son persan, à qui elle avait donné le nom de son pape préféré. Jean-Paul II était mort depuis 40 ans, écrasé par Seth Harrison, le furieux criminel récidiviste qui grillait le feu tricolore de New York, Colorado, chaque fois que sa femme était sur le point d'accoucher. Personne n'ayant eu le courage d'annoncer la nouvelle à Madame Jennings et d'être responsable d'une mort que la tristesse pouvait précipiter, on lui avait trouvé un chat répondant aux mêmes caractéristiques. Depuis, on s'était un peu relâché et Jean-Paul II avait tour à tour été noir, blanc, roux. Il avait même été remplacé par un chow-chow et un écureuil les mois où l'on n'avait eu aucun chat persan sous la main. Souffrant d'une mauvaise vue, la vieille dame n'y voyait que du feu, ce qui rendait la résolution du cas assez simple et rapide. « Notre policière est efficace », avait-elle dit la dernière fois, avant de repartir radieuse, tout en caressant la tête soyeuse d'un lapin bélier auquel Kevin avait dû faire une permanente à coups de sèche-cheveux. Alors, bon, Romain Puertolas ne s'embarrasse pas vraiment du souci du vraisemblable, mais bon, moi je suis très sensible à ce genre d'humour. Et en plus, ce bouquin, il est incroyable parce que Agatha Crispy adore lire et elle dit des choses magnifiques sur la lecture. Alors, je veux dire, deux tout petits passages. Le premier, elle dit d'un livre, « Le livre est un bon compagnon, un ami, un amant. Il se glisse dans notre lit, dans notre bain, sur notre sofa. La lecture est un moment de solitude que l'on partage avec des personnages, une histoire que l'on fait nôtre. Un livre, c'est quelque chose de très personnel. On ne l'interprète pas tous de la même façon. Il ne réveille pas les mêmes émotions en chacun de nous. Que les gens lisent ce qu'ils veulent, ce qui les fait le plus vibrer, croire, rêver, mais qu'ils lisent. Cessons d'avoir l'arrogance de nous comporter en dictateurs littéraires. Qui sommes-nous pour imposer des dogmes ? Hitler brûlait les livres qu'il n'aimait pas pour le bien général, tu parles. Ça, c'est de la littérature, ça n'en est pas. Personne n'est jamais totalement dans le vrai, personne n'est jamais totalement dans le faux. » Et alors là, je m'adresse à Isabelle et à Coralie, parce que j'ai trouvé une définition d'une bibliothèque, je la trouve merveilleuse. Et ça va expliquer mon choix musical qui va suivre. Une bibliothèque, c'est comme un terminal d'aéroport. Imaginez une porte d'embarquement qui annoncerait Paris, celle d'à côté Caracas, une autre Sydney, une autre Singapour. Les livres d'une bibliothèque sont autant d'avions qui vous emmènent en voyage, à moindre coût, celui de quelques dollars et de votre imagination. En plus du voyage, on vous raconte une histoire. Tout le monde aime les histoires. Eh bien, je vous propose d'embarquer avec Jacques Dutronc, qui toute sa vie a rêvé d'être une hôtesse de l'air. Car, si j'ai bien compris, les bibliothèques sont un peu comme des hôtesses de l'air. Elles nous emmènent en voyage.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. L'avion est détourné, détachez vos ceintures, libérez vos complexes, tenez-vous par l'index, surveillez vos réflexes, en avant l'aventure. Toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. L'avion est détourné, nous sommes en altitude. Perdez vos habitudes, changez vos. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de ne plus jamais passer par les bas et les hauts de notre petite terre. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les fesses en l'air. Fini le pilotage, mais vive le pelotage. Fini le décollage, mais vive le collage. L'avion est détourné, on en est tout retourné. Toute ma vie j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie j'ai rêvé d'avoir d'avoir les fesses en l'air.
Oui, ben merci Lou de nous associer, nous bibliothécaires, aux hôtesses de l'air, parce qu'à vrai dire, même dans la littérature, souvent quand on parle de bibliothécaires, c'est souvent des dames âgées, acariâtres, avec un chignon gris, des lunettes et l'air vraiment peu aimable. Et donc, merci, ça change l'hôtesse de l'air.
Ah oui, mais moi, vous n'êtes pas ni vieille, ni acariâtre, ni tout ce que tu as dit, là, loin de là.
Voilà. Et pour revenir à Romain Puertolas, peut-être les personnes dont le nom évoquerait éventuellement quelque chose, il faut citer le premier roman qui a vraiment fait son succès, c'est L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Donc on voit effectivement que c'est un auteur qui aime ce qui est un peu loufoque. Mais comme tu l'as dit dans les extraits, loufoque, mais avec quand même de la profondeur. Parce que ce qu'il dit de la littérature et des bibliothèques est tellement juste, c'est un voyage tout simplement. Donc, ouais.
Oui, non, c'était vraiment très bien.
Il y a eu un film roman, d'ailleurs, sur le fakir, là.
Oui, il y a eu un film.
Est-ce que vous l'avez vu ?
Non.
Non, moi non plus.
Pas du tout.
Non, moi non plus. Non.
Par contre, le livre Tout un été sans Facebook, nous sommes deux à l'avoir lu à la bibliothèque de Florentville et on a toutes les deux beaucoup aimé, effectivement, bah, pour toutes les raisons que tu as donné.
Ah oui.
Oui.
Vraiment,
même moi, je l'ai lu. Hein.
Oui, oui, tu l'as lu aussi.
C'est pourtant une rubrique anti-littéraire.
Tu as quand même
non, il est irrésistible, ce livre. J'ai jamais lu un livre aussi drôle que celui-là.
Oui, et ça fait du bien en cette période.
Tout à fait. Ouais, il m'avait été conseillé par une bibliothécaire.
Oui.
Une collègue à toi, Isabelle.
Oui.
Marie.
Voilà.
Effectivement.
Ben oui, les livres, il y en a pour tous les âges. Hein. Et comme disait Brassens, l'âge ne fait rien à l'affaire, il n'est jamais trop tôt pour commencer à lire. Et je pense que Coralie a des choses à dire par rapport à ça.
Oui, effectivement, je vais quand même rebondir très très rapidement sur Puertolas, puisque lui aussi a écrit un roman pour la jeunesse, qui s'appelle Un détective très 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 spécial.
Ah bon ?
Et qui... malgré le fait qu'il soit pour la jeunesse, est tout aussi drôle et que je vous conseille parce qu'il est absolument divin. Et aujourd'hui, en jeunesse, j'avais envie de vous parler du sortilège des enfants squelettes. Une histoire un peu effrayante par Sébastien Van Docking chez Alice Jeunesse. Alors, ce que j'aime beaucoup avec cette histoire, c'est que déjà, c'est une histoire qui fait un peu peur, mais qui est tout à fait pour les enfants. Je le conseille à partir de 5 ans à peu près parce que les dessins peuvent parfois être un peu effrayants. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui va dans la forêt, qui cueille des baies et qui tombe sur la sorcière du coin. La sorcière du coin qui est absolument terrorisante avec sa robe verte et son visage rouge et qui explique qu'elle ne veut pas partager ses baies et qu'elle va donc punir l'enfant. Elle ensorcelle donc cette petite fille, cette pauvre petite fille, qui se transforme en squelette. Alors, c'est très sympathique parce qu'elle a beau être un petit squelette, elle a toujours ses cheveux, elle a toujours sa jolie petite robe verte, son joli petit panier et son magnifique chaperon rouge. Et l'histoire, en fait, raconte comment cette petite fille va devoir réaliser une sorte de quête pour pouvoir récupérer son véritable corps en réassemblant le squelette d'un autre enfant qui a été lui aussi ensorcelé. Voilà, c'est une histoire qui fait un tout petit peu peur, avec des dessins qui sont très, très graphiques et qui sont principalement dans les tons brun, bleu et vert très pâles. Mmh. Voilà, ça donne une nature très éthérée, très onirique aussi. Et évidemment, comme dans beaucoup de livres jeunesse, on retrouve cette petite fille absolument adorable qui, en réalisant sa quête, va venir en aide aux animaux de la forêt. Parce que les animaux sont quand même un thème, je pense, Isabelle, que tu seras d'accord, les animaux et les enfants sont quand même très, très souvent associés en littérature jeunesse. Hein.
Oui, 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 et les enfants aiment les animaux, donc ça fonctionne toujours.
Ça fonctionne toujours, clairement. Et on parle très souvent, d'ailleurs, en littérature jeunesse, d'anthropomorphisme. Donc, le fait de rendre ces animaux, de leur donner des caractéristiques humaines, notamment. Et ça me permet de faire le parallèle avec Béatrix Potter, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a un héros en particulier qui est très, très connu, qui est Pierre Lapin. Qui est très connu en littérature jeunesse et qui a bénéficié de sa propre adaptation cinématographique il y a quelques années.
Oui. C'est déjà ancien, ça, hein ? C'est un peu à l'ancienne, non ?
Très à l'ancienne, parce que Béatrix Potter, il me semble que c'est...
C'est fin 19e.
C'est fin 19e ou début 20e. Hein, c'est assez... Mais depuis fin 19e, début 20e, Béatrix Potter a continué, entre guillemets, d'avoir son évolution jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, il existe une maison d'édition qui porte le nom Béatrix Potter et qui continue de reprendre le même style de dessin, un petit peu actualisé pour que ça colle un peu plus au jour d'aujourd'hui, mais qui reprend les grands personnages. Donc, on a Tom Chaton, on a Pierre Lapin et Jeannot Lapin qui sont cousins, et chacun de ces petits personnages suit sa propre petite aventure pour apprendre aux enfants à grandir correctement.
Ah oui.
Voilà, voilà. C'est à peu près la même chose ici avec le sortilège des enfants squelettes, puisque la petite fille, en suivant son chemin et en aidant les autres, finit par réaliser sa propre quête et redevenir humaine.
Oui, et pour grandir, c'est vrai que tu dis, voilà, ça fait un peu peur, mais pour grandir, il faut se confronter aux peurs. Mmh. Donc... Il ne faut pas avoir peur de faire peur.
Exactement.
Et donc, tu dis que c'est pour les enfants à partir de 5 ans, c'est ça, hein ?
Oui, moi, je le conseille à partir de 5 ans. Oui. Après, les enfants qui sont habitués à la lecture peuvent commencer déjà dès 3 ans. Mais je pense que 5 ans, c'est une bonne date parce que ça permet de dissocier en fait, un petit peu la peur de l'imaginaire et la peur concrète chez les petits.
Tu peux rappeler
c'est ce petit frisson de peur qui va leur faire du bien. Donc voilà, Le sortilège des enfants squelettes, d'accord, une histoire un peu effrayante chez Alice Jeunesse.
Oui, c'est bien, hein, ça permet aussi de diriger les peurs quelque part sur un sujet qu'on peut maîtriser. Hein. C'est important, hein, tous ces... Et puis surtout, je pense que c'est très important de faire lire les enfants très tôt, le plus tôt possible. Comme ça devient une habitude. Et même si à l'adolescence, ils sont sur leur tablette, leur téléphone, etc., ils auront quand même eu ce goût-là à un moment donné, même s'ils le perdent momentanément.
Il y a des études, en fait, qui ont montré que plus on introduit la littérature tôt, plus il y a de chances que ce soit une habitude qui perdure. Et je ne sais pas si c'est le cas à Florentville, mais je pense que oui. Nous, à Jamoigne, on a plusieurs adolescents qui continuent de lire, tout en ayant évidemment ce lien avec les tablettes et les téléphones, parce que voilà, mais qui continuent de venir à la bibliothèque de lire et qui étaient extrêmement heureux de savoir que, malgré le reconfinement, nous étions considérés comme essentiels. Parce que Lou, tu le disais, les livres nous font voyager, et moi je le dis, les livres sont la nourriture de l'âme et de l'esprit. C'est ce qui permet de ne pas devenir totalement fou.
Oui,
bien tout dit. À fait d'accord.
Et effectivement, les albums jeunesse sont pour les enfants, en l'occurrence celui-là à partir de 5 ans, mais on peut les partager aussi en famille, et c'est tellement gai, même un enfant plus âgé, de lui lire ou de lire avec lui, et il ne faut pas abandonner toujours l'enfant à sa lecture dès qu'il sait lire, et donc ça peut aussi créer un lien particulier.
Oui, tout à fait.
Il y a plusieurs auteurs qui vont en classe et qui sont atterrés en fait, de voir qu'à partir du moment où un enfant lit, on ne lui lit plus. Et en fait, les auteurs se rendent compte quand ils vont dans des classes de secondaire que quand ils lisent leurs livres à des jeunes étudiants, on peut déjà dire jeunes étudiants, ils adorent la lecture. Mais ils ont perdu cet attachement. Parce que la lecture, on considère que c'est un plaisir solitaire. Alors qu'en fait, ça peut tout à fait être partagé.
Voilà, oui. Et donc là aussi, alors cet album-là précisément, je ne sais pas si on l'a à Florentville, mais donc il est à Jamoigne, à Gérouville
aussi. Oui, à Gérouville aussi, oui.
Voilà, donc si de partager ce moment de lecture avec cet album. En plus, ce sera à moindre coût grâce aux bibliothèques.
Tout à fait.
Et si vous ne l'avez pas à Florentville, je pense que les parents pourront quand même venir vous voir pour d'autres albums qui traitent de la peur ou d'histoires qui font un peu peur, puisque grâce à ces histoires, on peut facilement communiquer avec son enfant.
En effet, donc si on ne l'a pas, on a des alternatives et on peut, si on veut vraiment avoir celui-là, le faire venir.
Aussi.
On a un prêt entre les bibliothèques, c'est formidable.
Oui, et
c'est
puis il y a téléphoné aussi pour vérifier. Et puis il y a le catalogue qui est sur Internet qui permet de...
Oui, si on a accès à Internet, il suffit de taper catalogue bibliothèque Luxembourg et on tombe sur le catalogue de toute la province. Et on voit effectivement quelle bibliothèque là, et on peut même le réserver depuis le site.
Mais il faut ce numéro de lecteur alors. Hein.
Voilà, il faut être inscrit dans une bibliothèque, avoir son numéro de lecteur et donner sa date de naissance comme mot de passe. Et c'est parti, un monde s'ouvre à vous.
Oui, c'est quand même, il y a quand même de belles choses avec Internet. Hein. Mm-hmm. Bien, ben, tout ça est très bien. Hein. Alors, on va t'écouter là, Isabelle? Mais avant ça, peut-être une petite musique, non? Ce serait bien.
Oui,
Coralie, tu Coraline, nous proposes quelque chose?
Oui, j'avais envie de vous proposer Pepper, sa musique Come and Get Me, pour un moment un petit peu soul, jazzy, sympathique.
Voilà, allez, un peu de poivre. C'est parti.
The music hits the boulevard.
What's your flavor? Girl, turn it up like no one's around.
And if only you let down your guard,
misbehavior,
let this track box you up and down.
Lick the rum off your lips between
your neck sick, making up words as you sing along.
Cause the record is a time machine,
a round trip,
feeling yourself when you turn it on.
She just loves it all when the music's right.
So come on baby, this is your soundtrack. Move your body and dance all night.
This is for our girls who just wanna see.
Oh yeah.
If you want it, come on get it.
No use to resist, baby, do your thing.
Oh yeah.
If you want it, come on get it.
Bounce you up and down till morning.
Oh yeah.
If you want it, come on get it.
Music is the answer to everything.
If you want it, come and get the sound.
Give it all away.
It's free love pumping through the air. Got you hypnotized.
With a look like she wants to play.
And she does.
Watching her hands moving up her thighs.
Her drink spilling down her arm.
And it's with Nani pulsing to the bass and drum.
While the night slips into the sun.
I'm in it.
Volume on max and a naughty dawn.
She just loves it all when the music's right.
So come on, baby, this is your soundtrack. Move your body and dance all night.
This is all our girls who just wanna see.
Yeah.
If you want it, come on get it.
No use to resist, baby, do your thing.
Yeah.
If you want it, come on get it.
Bounce you up and down till morning.
Yeah.
If you want it, come on get it.
Music is the answer to everything.
And if you want it, oh, oh.
She's living through her stereo.
Just wanna sing. No use to resist, baby, do your thing.
Oh Lord,
bounce you up and down till morning.
Oh yeah,
if you want it, come on get it.
Music is the answer to everything.
Oh yeah,
if you want it, come on get it.
This is for girls who just wanna sing.
Oh yeah,
if you wanna listen to it, come on get it.
No use to resist, baby, do your thing.
Oh yeah,
if you wanna listen to it.
Bounce you up and down till morning.
Oh yeah, she wanna listen to it.
Music is the answer to everything.
And if you wanna come and get the sound.
Voilà, donc nous reprenons les vacances de Marie Fizaine, la petite Mimi, qui va chez sa tante Juliette à Isel. Le dimanche qui suivit, je sautais avec peine, vu mes petites jambes en bas de l'autorail, juste au point d'arrêt de moyen. Ma cousine me tenait ferme par la main, comme si elle craignait de me perdre. C'était dans sa nature de craindre la perte de l'autre. Elle était venue me prendre à la maison, moi qui restais sans envie. Pourtant, je me montrais très digne, mais peu bavarde. De 10 ans mon aîné, ma cousine parlait pour 2, et même pour 4. Dans cet autorail, il n'y avait quasi que des connaissances, tous des gens du coin en quête d'emplettes. Les jours de foire, là ou ailleurs, mieux valait éviter ce genre de transport, et le laisser au service des paysans. Les tomates à repiquer, les choux, les scaroles, et en plus la volaille voyageait en chœur, respirant à la fois la benzine et le céleri. Une compote de parfum a réveillé un régiment fatigué. Le dimanche, les voyageurs se montraient correctement habillés, bien qu'un relent d'étable flottait de temps à autre sans déranger personne. On savait que le cultivateur allait déjà rentrer pour soigner son bétail et traire ses vaches. Le soleil tombait sur les rives de la Semois proche. Ses eaux perlées, brillantes, s'écoulaient au rythme de son aval. En passant devant la brasserie du Fontenay, ma marraine me dit en pointant du doigt « Tu vois, c'est ici que ton papa est né, et ma maman aussi. » « Et l'autre ?» ai-je demandé. « Quoi l'autre ?»« Ah oui, tante Marie, j'oubliais. La pauvre, elle est si loin. » Pourquoi ne disait-elle pas tante Syra, la chinoise, afin de s'y retrouver ?« Attends que je change de main. » Elle prit ma petite valise à sa main gauche et je passai à droite. Tout à coup, la musique de la fontaine emplit ma tête. J'apercevais par la porte ouverte ses larges bacs gonflés d'eau claire et chantantes sous le flot incessant. J'aurais aimé courir y tremper les mains et même les pieds, remplir mes paumes de sa fraîcheur et l'avaler goulûment. Un bien-être que de la sentir couler en soi. Mais je continuais à marcher sagement. Hélas, je n'aimais pas être sage, ou du moins être perçu ainsi. Au fond de moi, cela me dérangeait, puisque les enfants sages iront tout droit au paradis, et je n'avais pas la moindre envie d'y aller. Le paradis pour moi, c'était ici, avec ma famille. Nous montions la route en tirant sur nos jarrets. Qui donc avait conçu un pareil village construit à flanc de colline? D'en bas, il fallait bien grimper, et d'en haut, telle une vérité de la palisse, il fallait bien descendre. Des vallées et tout en raideur. Déjà, je la voyais, la maison de grand-mère, pardon, de tante Juliette, la mieux perchée au-dessus de la rue, son gros pignon enfoncé dans la terre de ses murs épais que jamais je ne pourrais mesurer de mes bras tendus. Ses persiennes d'un rouge grenat, rouge évêque, disait mon frère, rabattues sur la grisaille de son crépi, avec la porte de la cave au ras de terre, ancrée sur sa gauche à l'arête de la roche. Combien de bâtisses ici se tenaient durement agrippées à la montagne. Car c'en était une vraie montagne à gravir, d'où que l'on parte et où qu'on aille. Isel voyait ses toits tout en cascade et ses rues comme des toboggans à dégringoler du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des maisons bourgeoises, il y en avait un certain nombre et de très belles. Un endroit enviable au possible pour y faire de la trottinette et du vélo. Il suffisait de se laisser aller et vogue à travers les airs pour se retrouver tout d'un coup sur les berges de la Semois au pont de Moyen. « Est-ce que ça va ?» me demanda ma cousine, poussant elle-même sur ses pieds. Par instant, chacune lâchait un énorme soupir afin de reprendre haleine. Elle m'encourageait tout en riant gentiment de nous voir en peine. Ses longues tresses de cheveux châtain clair lui tombaient sur le dos, et elle portait le béret comme aussi le manteau d'une pensionnaire, le tout en bleu foncé sur un chemisier blanc. Ses jambes étaient enserrées de bas mercerisés de couleur brune, avec des chaussures noires. Un ensemble des plus sérieux, très stricts, qui devait convenir plus encore à sa mère qu'à elle-même, et par-dessous quoi, elle transpirait un seigne de chemise. Soudain, Tony arriva à fond de train, la queue en bataille. Brave toutou, devinait-il à quel point j'allais avoir besoin de lui? Enfin, derrière la vitre de la cuisine, tante Juliette guettait notre arrivée. Sa fille poussa le lourd battant de l'entrée. Le carillon que je connaissais répondit aussitôt tandis qu'elle criait avec plaisir « C'est nous, on est là !» Déjà tante Juliette arrivait en souriant, Enfin, voilà notre pitchounette. L'oncle Lucien m'embrassa de sa joue piquante en marmonnant une blague qui se coinça sous sa casquette. Ma grande cousine était très heureuse de ma petite compagnie. Je ne savais trop quelle attitude je devais prendre. D'un côté elle, de l'autre tante Juliette qui pourtant marquait son contentement, tout en me tenant à l'œil comme il lui arrivait de le dire d'un ton aimable. Mais je savais qu'à la moindre incartade, elle se montrerait tel un juge sévère. Dès mon arrivée, j'avais reçu un cahier à colorier avec la boîte de crayons. Une première occupation pour me tenir tranquille, alors que l'atmosphère de la grande maison flottait autour de moi. Cela me semblait comme un sac à surprise sur mon dos que je ne pouvais ni atteindre et encore moins vider. Au juste, un ballon de baudruche qui jamais n'éclaterait. Ma tête soutenait mal l'effort continu qui était à faire. Ma cousine ou marraine, comme je devais l'appeler, gazouillait autant qu'un lâcher de moineau et regrettait mon mutisme. Je pensais, je ne peux pas sortir seule, je ne peux pas m'échapper au jardin parce qu'il se trouve de l'autre côté de la rue, je ne peux pas monter l'escalier et visiter les chambres, je ne peux pas descendre à la cave et moins encore monter au grenier. Je ne peux me servir de rien sans l'avoir demandé. Enfin, je ne peux pas m'amuser dans le magasin, ne pas en faire l'inventaire à ma manière. Mais survint une chose que je pus constater assez vite, c'était que ma présence y était tolérée si toutefois je gardais le silence devant la clientèle. Et ça m'intéressait. D'abord, il y avait les hommes qui parlaient sans arrêt en patois. Maman prétend que le patois d'Igé, Isel, n'est pas beau, que son patois à elle, celui de Jamogne, Jamoigne, est plus doux, plus agréable à l'oreille. Voilà pour aujourd'hui, et vous l'aurez compris, finalement, malgré ses réticences, Marie va certainement passer de bonnes vacances à Isel, et comme le dit Louis Armstrong, ce sera un « wonderful world ».
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Bien, chers auditeurs, chères auditrices, nous voilà arrivés à la fin de l'émission. Eh oui, les meilleures choses ont une fin. Mais ce n'est pas grave, parce que nous allons nous retrouver d'ici peu, hein, d'ici une quinzaine de jours, si tout va bien. Mais tout va bien se passer, alors voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine fois.
Au revoir à tous, à toutes.
Au revoir à tout le monde, à bientôt.
Au revoir tout le monde, amusez-vous bien et n'oubliez pas de lire.